Bonjour à tous, Patrick Cagérère, Master 1 gestion de l'environnement écologique du littoral et CMI 4 à l'Université de La Rochelle. Donc, l'étude que je vais vous présenter qui a eu pour but de déterminer l'impact de l'hydrogéomorphologie sur la faune des sources de la Haute-Vallée du Doubs. Donc, la Haute-Vallée du Doubs se trouve dans le Jura. Le Jura, c'est une chaîne de montagnes qui se caractérise au niveau géologique par une alternance entre sous-sol calcaire et sous-sol marneux. Et cette alternance géologique, associée à l'activité humaine, va se traduire au niveau paysager par une alternance entre habitat forestier sur sous-sol calcaire et habitat prairieux sur sous-sol marneux. Au niveau de l'habitat étudié, donc au niveau des sources, on observe une variabilité dans la géomorphologie, toutes les sources ne se ressemblent pas, et une diversité de la faune en partie influencée par la géomorphologie de la source. Donc cette étude est partie du schéma conceptuel de Rice and Shiflard qu'on voit en bas à droite, qui définit la source comme une interface entre l'eau et le sol contrainte par des processus pédologiques, donc des processus au niveau de l'habitat, des processus géomorphologiques à l'échelle du paysage et des processus hydrologiques. Et c'est en partie et c'est majoritairement sur ces derniers processus que s'est concentrée cette étude. Diapo suivante. Voilà, donc ce qu'il faut donc rapidement les graphiques de gauche sont des facteurs map. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que plus de points sont proches, plus les sources qui sont associées sont similaires dans la réalité. Et les graphiques de droite, les cercles de corrélation, plus de flèches vont dans le même sens, plus les variables qui sont associées sont potentiellement corrélées dans la réalité. Donc, ce qu'on voit dans les tendances en hiver, donc les graphiques du haut, c'est à gauche pas de séparation des sources en fonction de l'environnement, donc c'est les points en vert, mais une plutôt bonne séparation des sources en fonction des processus à l'échelle de l'habitat, donc en fonction de la morphologie de la source, les points en bleu. Donc on a émis l'hypothèse que la morphologie de la source va être le facteur principal qui va contraindre les variables physico-chimiques dans les sources, et ça se retrouve assez bien sur le cercle de corrélation à droite. Entre à gauche, des variables qui vont plus être liées à des sources qui vont permettre à l'eau de s'écouler rapidement, donc la température, la conductivité, le dioxygène dissous et la vitesse du courant. Et à droite, des variables plus liées à des facteurs biotiques, donc une eau qui s'écoule moins et qui potentiellement peut plus se charger en matière minérale, donc les ions chlorure, sulfate et bien évidemment le carbone organique dissous. Au niveau de la faune, donc c'est le cercle de corrélation avec les écritures en vert. On n'a pas de schéma de tendance qui se dégage en hiver, mais il faut savoir qu'il y a très peu d'individus qui ont été échantillonnés en hiver, ce qui explique probablement cette absence de significativité. Au niveau, donc, quand on regarde ce qui se passe en été, donc les graphiques en bas, on voit donc une nette séparation en fonction des processus à l'échelle de l'environnement, donc les points en vert toujours, et aussi en fonction des processus à l'échelle de l'habitat, toujours les points en bleu. Donc on émet l'hypothèse que ces deux types de processus vont s'associer pour contraindre les variables physico-chimiques, et ça se retrouve donc toujours bien au niveau des cercles de corrélation, donc celui de gauche, nette séparation entre à gauche des variables liées à des sources qui vont plus se retrouver sur des fortes pentes, oxygène dissous et vitesse du courant, et à droite des variables qui vont plus se retrouver sur des faibles pentes, carbone organique dissous, température et bien évidemment les substrats fins. Diapo suivante.
Il reste une minute.
Oui, voilà. Donc, cette étude est partie du schéma conceptuel de Rice and Shiflard, donc en bas à gauche, et à partir des données obtenues, on a vu émerger un nouveau modèle conceptuel pour les sources de la Haute-Vallée du Doubs et qui est probablement généralisable à l'ensemble de l'arc jurassien, où la géologie, en alternant entre sous-sol calcaire et sous-sol marneux, va contraindre à la fois les processus saisonniers, la morphologie de la source et l'utilisation des sols, qui vont à leur tour contraindre les variables physico-chimiques et la source. Comme ces trois domaines, processus saisonnier, morphologie et utilisation des sols, sont susceptibles d'être impactés par les activités anthropiques, toute la difficulté pour les gestionnaires à l'avenir va être d'intégrer ces trois niveaux de lecture dans leur plan de gestion et les problèmes qui sont associés. Donc, pour en donner quelques-uns, modification des processus hydrologiques saisonniers en fonction dû au changement climatique, modification de l'usage des sols dû au changement climatique et à la pression anthropique, que ce soit urbanisation ou agriculture, et enfin, nécessité de faire de la sensibilisation auprès des gestionnaires pour préserver les sources qui sont des écosystèmes importants pour la biodiversité et que les propriétaires ont parfois tendance à négliger. Bon, merci de votre attention et me tiens à votre disposition pour d'éventuelles questions.
Bonjour à tous, hein, je suis Pierre-Fort Giovagnoli et je vais vous présenter le projet auquel j'ai participé pendant ma thèse de master, donc qui porte sur la classification automatique de diatomées sur image microscopique et à l'aide de d'apprentissage profond. Donc vous pouvez passer à la slide suivante. Donc, on a déjà parlé des diatomées hein, dans la conférence, hein, notamment avec l'étude de Vincent Felten sur les biofilms. Je me permets une petite représentation. Les diatomées sont un type de micro-algues qui sont présents dans tous les milieux aquatiques. Donc, on compte des milliers d'espèces qui sont caractérisées par des formes très différentes. Quand on parle des formes, on parle de la forme des frustules, qui sont des coques en silice qui entourent la cellule en elle-même. Donc, ces différentes espèces ont des sensibilités marquées et très différentes hein, par rapport à l'environnement. Donc, c'est-à-dire la présence de polluants dans l'eau ou des choses comme ça peuvent influer du coup la proportion des différentes espèces. Donc, ça a amené la communauté scientifique à créer des bio-indicateurs à partir des proportions d'espèces, notamment dans l'application de la directive cadre européenne sur la qualité de l'eau, donc qui pousse les États à faire des états des lieux de l'eau chaque année. Actuellement, le processus, ça va être du coup de faire des prélèvements dans les cours d'eau de France. Et ensuite, après un traitement qui permet d'obtenir des images un peu des diatomées dans l'état qu'on voit à droite, hein, c'est-à-dire des diatomées mortes où on a uniquement les fustules. Du coup, on va faire ces prélèvements et ensuite, il va y avoir une analyse manuelle qui va être faite par des experts. Donc, ça demande déjà un haut niveau d'expertise, donc des personnes entraînées à les reconnaître. C'est également très chronophage de par déjà l'activité en elle-même, mais aussi parce que pour avoir des valeurs statistiques correctes, il faut beaucoup d'individus, donc ça demande du temps. Et ça peut également être sujet de multiples biais, hein, déjà de l'expérience opérateur, en fonction d'opérateur, on peut avoir différents types d'analyses, et de la qualité de l'image et de type d'illumination, ce genre de choses, on peut avoir des divergences entre les différentes personnes qui analysent. Ça nous a semblé justifier la création d'un outil automatique hein, de détection, d'identification de diatomées sur images microscopiques, et notamment en exploitant les dernières approches d'apprentissage profond et de réseaux convolutionnels qui ont donné de très bons résultats récemment, mais qui ont été peu appliqués à ce domaine-là en particulier. Vous pouvez passer à la slide suivante. Donc, notre pipeline, elle est mise en image ici. Donc, on a une image microscopique entrante qui va passer dans un premier réseau de détection d'objets. Donc, le but de ce réseau, ça va être de détecter les diatomées sur l'image. Donc, les défis dans ce processus, ça va déjà être d'éviter les débris, les sédiments, toutes les choses qu'on veut éviter, donc les faux positifs, et uniquement avoir les diatomées, et si possible, un maximum de diatomées par rapport au vrai nombre de diatomées sur l'image. Une fois détectées, ces diatomées sont extraites pour donner les imagettes qu'on voit après l'étape 2, et ensuite, on va passer dans un réseau de classification d'images. Ce réseau de classification va assigner un taxon à ces images, Et ce taxon, ça peut être l'espèce, mais ça peut être aussi les variétés, ça peut être à différents niveaux, notamment des niveaux de déformation, comme le disait M. Felten, c'était leur analyse. Ça peut aussi faire partie des types de classifications qu'on peut imaginer. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Donc, en gros, il y a deux grosses choses à voir là-dedans, c'est la détection et la classification. Sachant que pour entraîner ces réseaux, il va falloir des jeux de données importants. Plus on a, bien sûr, plus ça donne des bons résultats. Sauf que c'est souvent coûteux hein, d'avoir ces jeux de données, notamment pour la détection, par exemple, il faut un grand nombre d'images microscopiques labellisées à la main, ça prend beaucoup de temps. Donc, une de nos approches, ça a été de mettre en support d'images réelles des images artificielles. Donc, on a créé c'est des sortes de patchwork qu'on a créé à partir d'images individuelles de diatomes prises dans la littérature, notamment d'atlas fournis par l'Adréal, qui nous permettent d'obtenir des images artificielles du coup d'images microscopiques avec des débris également, comme vous pouvez voir sur la partie gauche. Donc, c'est une image artificielle qu'on a créée. Donc, on en a généré à peu près 10 000 en disant en complément de 200 images labellisées manuellement, ce qui nous a permis d'avoir des bons gains, hein, donc de 12% sur la précision. Donc, quand on parle de précision, c'est le pourcentage de détection correcte et 6% en rappel, donc qui est le pourcentage de diatomées détectées sur le vrai nombre dans l'image. Donc, c'était une approche qui a donné des bons, très bons résultats. Sur la partie classification, du coup, on a juste tenté d'appliquer finalement l'état de l'art, déjà, pour commencer. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'a pas été fait sur la classification de diatomées. Donc, pour différencier 150 intaxons, qui est un grand nombre, on a eu des très bonnes précisions par rapport à ce qu'on voit dans la littérature de 91%, avec ce qui se fait quasiment de mieux actuellement en termes de classification d'images. Donc, ce score pourrait être encore amélioré si on avait plus d'images dans le jeu de données. Mais du coup, il y aura toujours, quoi qu'il arrive, des erreurs. En tout cas, c'est très probable qu'il y ait toujours des erreurs, notamment à cause de sous-représentation dans le dataset. Si on a moins d'un taxon en image ou qu'on a plus d'images pour un autre taxon, on risque d'avoir il peut y avoir du coup des erreurs qui arrivent de là, ou même des morphologies très similaires. Du coup, pour pallier à ce genre de problème, on a décidé de créer une taxonomie artificielle à partir des erreurs du modèle. Et à partir de cette taxonomie artificielle, on va pouvoir faire de la classification hiérarchique qui vont permettre déjà d'avoir des classifications probabilistes. Ça appartient à ce taxon-là avec 10%, par exemple, ou 20%. Ou alors de dire, je m'arrête plus haut, c'est taxon A ou B, mais pas taxon A juste. Donc, ça permet d'avoir une classification adaptative. Voilà, c'est les pistes qui nous restent encore à explorer. Merci beaucoup.
Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Lauriane Baker, doctorante en microbiologie environnementale au laboratoire de micro-organismes, génome et environnement. Également au laboratoire de géophysique de Clermont-Ferrand. Et donc, sous la direction de David Biron et d'Aude Bauger, je travaille sur l'influence de la radioactivité naturellement renforcée sur les peuplements de diatomées actuelles et passées des sources minérales. Et donc, bon, il a été déjà expliqué un peu ce qu'étaient des diatomées précédemment, mais je tiens quand même à le rappeler. Donc, les diatomées sont des microalgues qui ont colonisé différents milieux aquatiques et donc qui présentent une sensibilité aux polluants et donc sont utilisées comme bioindicateurs de la qualité d'un habitat aquatique. Et donc, lors d'une première étude portée par plusieurs acteurs de la SATU, notamment Géolab, le LMGE et le LPC, il a été démontré que dans les sources minérales où la radioactivité est naturellement renforcée, les diatomées présentent un pourcentage de frustules déformées plus important, comme j'ai pu vous le présenter tout à gauche, où on peut voir une diatomée qui a un frustule, donc une enveloppe externe déformée. Ainsi, dans notre étude, nous cherchons à comprendre comment la radioactivité naturellement renforcée influence les populations de diatomées dans les sources minérales. Pour cela, deux approches ont été choisies. Une première approche dite synchronique, qui vise à comprendre l'impact de la radioactivité naturellement renforcée sur la composition, la richesse, la diversité des communautés de diatomées actuelles, mais également on cherche à identifier et caractériser des espèces qui sont sensibles, tolérantes ou résistantes à la radioactivité. Dans une seconde approche dite diachronique, on veut observer l'évolution des populations de diatomées au cours des périodes enregistrées dans les sédiments, mais également déterminer l'influence de la radioactivité au fil du temps à partir des diatomées fossiles. Slide suivante, s'il vous plaît. Pour répondre en fait aux objectifs liés à notre approche synchronique, les communautés de diatomées de 25 sources minérales d'Auvergne qui présentent des profils physico-chimiques et radiologiques différents ont été échantillonnés en automne 2019 et au printemps 2020. Donc, les paramètres physico-chimiques des sources telles que la conductivité, la température ou les concentrations en ions majeurs ont été mesurées. Et les sources ont été analysées afin de déterminer les caractéristiques radiologiques telles que le rayonnement gamma, l'activité en radon des sources, la concentration des radioéléments, des éléments de trace dans les eaux et dans les sédiments des sources. Et puis, les espèces de diatomées ont été assignées grâce à des analyses morphologiques et génétiques à travers le métabarcoding. Et lors des analyses morphologiques, nous avons déterminé le pourcentage d'individus déformés. Pour ce qui est de l'approche diachronique, source, le travertin de la source la plus radioactive de France, nommée la Montagne, a été carotté et sondé. Et donc, pour observer l'évolution des diatomées au fil du temps et déterminer l'influence de la radioactivité à partir des diatomées fossiles, les espèces des diatomées, des différentes couches stratigraphiques que vous pouvez voir ici, en bas à droite, retrouvées dans les carottes, ont été déterminées et les carottes ont été datées à partir des descendants d'uranium. Slide suivant, s'il vous plaît. Merci. Donc, l'exploitation des données est encore en cours. Merci. Je vous présente ici les résultats provenant de l'analyse morphologique des communautés échantillonnées en octobre 2019. Et donc, à gauche, vous avez un histogramme qui représente l'abondance relative des 11 espèces majeures dans les échantillons des sources minérales. Et en gros, ce qu'on observe, c'est que là, ici, à la source du... Donc, les sources sont classées de la moins radioactive à la plus radioactive. Et donc, dans la source du SEI, on observe qu'il y a un profil taxonomique particulier dans cette source qui suggère une insularité des espèces qui y sont présentes. Et puis, on observe également que certaines espèces qui sont présentes dans les sources minérales où la radioactivité... dans les sources minérales où la radioactivité est peu importante et également dans des sources où la radioactivité a un niveau plus important, cela suggère que ces espèces ont une plasticité génomique plus importante, ce qui leur permet d'être présentes dans les deux cas de figure. Et donc, l'une des perspectives à court terme de cette étude est de coupler les résultats de l'analyse morphologique à ceux de l'analyse métabarcoding pour déterminer l'impact de la radioactivité naturellement renforcée sur la structuration des communautés de données qui peuplent les sources minérales. Et donc, pour plus d'informations, je vous invite à télécharger mon poster qui était sur le site qu'ont partagé les organisateurs, que je remercie d'avoir organisé ce colloque. Merci. Merci.